C'est l'une des idées forces de cette nouvelle saison. RTL a décidé de mettre l'accent encore plus fort sur la protection de la planète. Plusieurs rendez-vous vous sont proposés sur notre antenne. La Minute Verte de Jean-Mathieu Pernin, du lundi au vendredi, 6h50. C'est notre planète, Virginie Garin, à la fin du journal de 8h. Un troisième temps fort arrivera dimanche prochain, 8 septembre, sur RTL. On refait la planète. Chaque dimanche soir à cette même heure, je serai en compagnie du grand photographe réalisateur Yann Arthus-Bertrand, l'un des plus ardents défenseurs de notre bonne vieille Terre. Ce soir, c'est un autre défenseur de l'environnement que je reçois, un amoureux des arbres. Bonsoir Stéphane Allaire.
Bonsoir.
Vous êtes le président de Reforest Action, une entreprise à vocation sociale que vous avez créée en 2010, je crois. Vous vous êtes fixé comme objectif de contribuer partout où c'est possible au reboisement. Eh bien, RTL a décidé de s'engager à vos côtés, puisque cette année, à chaque fois que notre station fera gagner une montre à un auditeur ou à une auditrice, eh bien, grâce à Reforest Action, un arbre sera planté quelque part. Concrètement, Stéphane Allaire, cette opération avec RTL, comment ça va marcher ?
RTL donc contribue au reboisement en France. On n'est pas en Amazonie, là, pour le coup, on est en France. La France n'est pas sujette à la déforestation. Les forêts ont tendance à prendre du terrain, même en France. Simplement, elles sont sujettes à un certain nombre d'aléas, des tempêtes, des maladies, des incendies, des sécheresses, des coups de gel, etc. Ce qui peut impacter la santé des forêts, voire dégrader sa biodiversité notamment. Dans le cadre de nos opérations en France, on va aller restaurer des forêts dégradées ou planter de nouvelles forêts. Et RTL y contribue en finançant la plantation d'une forêt en France cette saison.
Alors, je me suis renseigné comme vous, RTL offre chaque saison, je crois, autour de 2000 montres à ses auditeurs, ses auditrices, ce qui veut dire qu'à la fin de la saison, vous aurez planté 2000 arbres.
2000 arbres sur une forêt qui fera un peu moins de 2 hectares.
Vous ne savez pas encore dans quelle région, ni quels arbres ?
Non, on y travaille. On va vous trouver un beau projet. Ce qui est sûr, c'est que ce projet sera constitué de différentes essences d'arbres et sur lesquels le propriétaire, public ou privé, va s'engager sur une gestion durable. Cette forêt va apporter un grand nombre de services, à la fois des services économiques, qui va créer de l'emploi à travers la gestion durable de cette forêt, mais aussi des services sociaux et environnementaux, puisque la forêt est source de bien-être. Vous savez qu'il y a plus d'un milliard de visites en forêt par an, en France,
plus qu'au cinéma,
et que cette forêt va aller stocker du CO2, dégager de l'oxygène.
On va en reparler. Je crois que depuis sa création, Reforest Action, votre entreprise, a planté dans le monde plus de 3 700 000 arbres, c'est ça ?
C'est ça. Et ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'on a mis 9 ans à planter 3,5 millions d'arbres et on va mettre un an à en planter autant. Il y a un engouement, il y a une réaction, il y a un engagement de la société civile pour la forêt. Et on est ravis de pouvoir y contribuer.
Alors, je reviens à l'actualité brûlante. Pardon, le jeu de mots est très mauvais, mais ces incendies en Amazonie, faudrait pas croire que c'est le seul endroit de la Terre où la forêt brûle en ce moment.
Loin de là.
Quels sont les autres grands espaces de forêt dans le monde qui brûlent actuellement ?
L'Afrique, le bassin du Congo en particulier, et puis il y a les forêts sibériennes.
Ça, oui, on en a parlé, dans l'actualité. Ouais. En fait, si on parle autant de l'Amazonie, c'est parce que c'est la plus grande. 10 fois la France, 5,5 millions de kilomètres carrés, je crois. C'est ça.
Elle est d'une richesse en termes de biodiversité qui est exemplaire. Rien que sur les arbres, il y en a 16 000 essences différentes. En comparaison, en France, on en a 126.
Alors, il y a un mot qu'on entend 100 fois par jour en ce moment, c'est « poumon de la planète ». Pour vous, ce n'est pas le meilleur terme. Pour vous, l'Amazonie, c'est un climatiseur. Expliquez-nous pourquoi.
Pour une raison très simple, c'est que les forêts, les arbres, grâce à la photosynthèse, absorbent le CO2 et dégagent de l'oxygène.
Donc CO2, là, carbone.
En cela, les arbres nous permettent de respirer à travers l'oxygène qu'ils génèrent. Simplement, la forêt amazonienne, comme elle est arrivée à son stade de maturité le plus ultime, elle va réabsorber une très grande partie de cet oxygène à travers sa respiration. Parce que les arbres, les animaux qui la composent, respirent, comme vous et moi. Mmh. Et donc, absorbent de l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Par contre, cette forêt, elle vient pomper l'eau du sol et par un phénomène qui s'appelle l'évapotranspiration, rejeter cette eau dans l'atmosphère. Et on estime qu'en Amazonie, un arbre de grande envergure peut rejeter dans l'atmosphère 1 000 litres d'eau par jour.
Par jour ?
Par jour. Et du coup, cette air humidifié, eh bien, c'est un air plus frais qui va justement refroidir l'atmosphère locale et créer des nuages qui vont venir apporter de la pluie sur des régions entières. Et il y a une personne qui en parle très bien, si vous me permettez de faire sa publicité, c'est Gérard Moss qui a conceptualisé le terme de rivière volante. Parce que finalement, ces tonnes d'eau qui montent dans l'atmosphère, ça en fait des rivières qui ont un débit aussi important que le fleuve Amazon. Et donc on parle de rivière volante parce qu'il y a un fleuve au-dessus de nos têtes en Amazonie.
C'est très parlant et en plus c'est très poétique. Alors, outre être le poumon de la planète ou le climatiseur de la planète, à quoi ça sert un arbre en fait ?
Un arbre apporte un grand nombre de services, on appelle ça les services écosystémiques. Alors c'est un mot compliqué pour dire que finalement, l'arbre il va stocker du CO2, rejeter de l'oxygène. La forêt, c'est un lieu de vie avant tout. C'est un écosystème à part entière. Donc quand on crée une forêt, quand on maintient une forêt, eh bien on va créer un habitat pour un grand nombre d'animaux, de végétaux et de champignons. Mais ces arbres, à travers leur système racinaire, ils vont aussi retenir les sols. Quand vous avez un terrain en pente, ne coupez pas votre forêt. Elle va filtrer l'eau. Les pluies, au lieu de s'abattre brutalement sur les sols et les lessiver, va s'écouler lentement le long du tronc, pénétrer le sol, et ainsi la forêt va filtrer l'eau. C'est votre station d'épuration. C'est des impôts en moins, une forêt. Voilà. Et puis, il y a une dimension bien-être, comme je le disais en introduction. Quand on rentre en forêt, l'intellect s'arrête. Puisqu'il y a trop de choses, il y a trop de branches, il y a trop de feuilles, il y a trop de tout. Oui. Vous ne pouvez pas l'intellectualiser et vous laisser place à vos sentiments.
Au rythme actuel de déforestation, l'Amazonie va mourir dans combien de temps ?
Tout à fait honnêtement, je ne crois pas que l'Amazonie
meurt un jour. Et c'est tant mieux.
Je crois qu'elle sera suffisamment résiliente. Par contre, ce que les chiffres nous disent, c'est que depuis bientôt 50 ans, depuis 1970, on a perdu à peu près 20% de la surface de forestière en Amazonie. On estime qu'au rythme actuel, dans 30 ans, en 2050, 70% aura été cultivé et donc il y aura eu un changement d'usage des sols.
Vous, au sein de votre entreprise Reforest Action, vous vous battez pour développer un concept qui s'appelle l'agroforesterie. Je voudrais que vous nous expliquiez concrètement ce que c'est.
Alors, ce n'est pas un concept inventé par Reforest Action du tout. Ça existe depuis des centaines, millénaires d'ailleurs. Ouais. Mais c'est un sujet qui nous plaît beaucoup parce que ça consiste à planter les arbres sur des terrains agricoles. Ce qu'on évite avec l'agroforesterie, c'est la compétition entre les surfaces forestières et les surfaces agricoles. Quand vous avez un agriculteur qui, pour subvenir à ses besoins, de sa famille, des petits agriculteurs, ceux qu'on rencontre nous au quotidien quand on va au Brésil ou au Pérou ou ailleurs, c'est que finalement, s'il défriche, c'est pas pour s'enrichir, c'est pour vivre. Et du coup, ce qu'on veut éviter, c'est que quand il a exploité un hectare de forêt qui a perdu en rendement parce qu'il a complètement épuisé les sols, eh bien qu'il aille brûler un hectare à côté. Donc on va réintroduire des arbres sur son champ qui vont venir enrichir les sols, qui vont augmenter sa productivité et qui vont lui apporter des revenus complémentaires. On veut qu'il ait plus de revenus en plantant plutôt qu'en élevant du bétail de façon extensive.
Mais ce discours, ils le comprennent ?
Ils le comprennent à force de persuasion, de façon tout à fait amicale, il n'y a aucun conflit là-dedans. Simplement qu'on travaille avec des ONG locales dont c'est le métier et qui en font la preuve. C'est-à-dire qu'ils ont un raisonnement communautaire. Mmh. Une personne a réussi, eh bien, il va aller rencontrer ses voisins. Et de proche en proche, comme cela, on arrive à travailler avec des milliers de paysans qui vont adopter ce mode de culture.
Alors, je parlais de cette prise de conscience planétaire, hein, de tous ces enjeux autour de l'arbre, des forêts depuis plusieurs années. La forêt indonésienne détruite pour fabriquer des meubles ou pour la fameuse huile de palme du Nutella. La forêt amazonienne qui se réduit pour produire du soja brésilien, vous en avez dit un mot. Quel conseil vous donnez aux consommateurs que nous sommes ?
Deux choses. La première, c'est de ne pas être complice de la déforestation. Repenser sa consommation en prenant conscience que finalement, le soja, qui est responsable de la déforestation en Amazonie en particulier, et l'élevage bovin, finalement, il se retrouve dans notre assiette. Et donc, c'est de prendre conscience de cela et de se dire que finalement, le soja, aujourd'hui, il alimente pas mal l'élevage bovin européen industrialisé. Du coup, c'est de choisir de la viande non industrielle.
Mais quand on va limiter sa consommation de viande. Quand on va acheter son beefsteak, on peut savoir si la bête a mangé du soja ou pas. C'est pas possible.
Vous savez ce que je fais, moi ? Je vais chez mon boucher, plutôt qu'en supermarché déjà, pour commencer, et je lui pose un milliard de questions. Souvent, ils connaissent le producteur, ils savent dans quelles conditions c'est fait. L'autre chose, c'est ce que l'on fait à travers l'agroforesterie notamment, en plantant des arbres sur les paysages agricoles dans ces régions, de façon à limiter la déforestation, puisque le petit producteur, le petit paysan, ne va pas aller brûler la parcelle d'à côté parce que sa parcelle va lui suffire. Mmh. Et puis, on restaure évidemment des parcelles qui ont été déforestées à travers des actions de plantation. C'est une action très concrète qu'ils peuvent faire sur reforestaction.com ou sur d'autres sites de reforestation. On ne sera jamais assez nombreux pour le faire.
Alors, expliquez-nous d'ailleurs très concrètement, si on veut vous aider, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur votre site ?
On va sur reforestaction.com, on choisit le lieu où on veut planter sa propre forêt. Et cette forêt, c'est un peu ce qu'on va léguer donc aux générations futures. On va choisir les lieux de plantation sur reforestaction.com ou sur d'autres sites, et puis découvrir à quoi elle va servir cette forêt, comment elle va sortir les gens de la pauvreté, pour les pays en voie de développement notamment, le carbone qu'elle va stocker, etc. etc. Sur reforestation, ça coûte 3 euros un arbre, donc vous plantez le nombre d'arbres que vous voulez, ponctuellement, tous les mois, vous faites ce que vous voulez, mais faites-le, plantez votre forêt.
Merci Stéphane Allaire d'être venu nous éclairer sur l'importance des arbres. Hein, partout où il est possible, il faut les aider, les replanter, ces arbres, ces forêts. Je rappelle que vous êtes le président de Reforest Action, donc merci d'être venu sur RTL ce soir.
Merci Philippe.